Je vous invite à ouvrir votre Bible dans l'épître de Jacques. Donc vous avez lu certainement Romains chapitre Éphésiens chapitre 4. Mais nous allons lire dans Jacques chapitre 4. Ça fait quelque temps qu'on est dans ce chapitre, dans cet épître. Bon, on n'y est pas chaque mardi, donc ça prend plus de temps, mais on est arrivé au chapitre 4, où il est question de, pourrait dire, de l'attitude mondaine que peut avoir le croyant, je crois même. Et nous allons lire donc ces premiers versets, chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 12. Donc, lisons chapitre 4, verset 1 jusqu'au verset 12. Il dit, d'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier, envieux, et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas, parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Voyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes et que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Verset 11. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge. C'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain ? Jusqu'ici la lecture. Donc nous avions vu jusqu'au verset 10 déjà. Donc là on va s'attarder un peu sur les versets 11 et 12 que nous venons de lire. Et donc là ici Jacques, quand on lit l'épître, on a déjà dit, on a l'impression qu'il y a une suite d'exhortations collées les unes aux autres. On peut néanmoins trouver une certaine unité dans le texte, on a lu au chapitre 4, l'épître de Jacques, dans le chapitre 4, Jacques s'attelle à décrire un peu le caractère mondain ici. Il avait parlé beaucoup de la langue au chapitre 3, et ici, il parle encore de l'utilisation de la langue dans les relations entre frères. Ne parlez point les uns mal les uns des autres, frères. Et donc, c'est l'exhortation principale, je crois, qu'il a dans notre passage. Alors, probablement, on va pas trouver dans les églises beaucoup de croyants qui en viennent aux mains. Ça s'appelle en venir aux mains, ça veut dire qu'on finit par se boxer. J'ai jamais vraiment vu ça dans les églises. Peut-être que j'ai pas vécu assez longtemps pour le voir. Peut-être aux États-Unis, hein. Mais dans aucune église, j'ai voyagé, j'ai rencontré cela. Mais on compte quand même, c'est pas pour cela qu'il n'y a pas de manifestation de violence dans les églises. Et s'il n'y a pas de violence physique, quand on lit ce passage, déjà Jacques chapitre 3 et Jacques chapitre 4, on voit que la violence verbale, bien souvent, fait partie, je veux dire, bon, ça existe aussi dans l'Église. Et donc, la Bible enseigne, n'est-ce pas, le pouvoir terrible, le bon pouvoir que peut avoir la langue, mais aussi le pouvoir terrible et désastreux de la langue. Proverbe 18, 21 dit, la mort et la vie sont au pouvoir de, la langue. Donc la vie peut être transmise par les paroles, mais aussi la mort, on peut encourager, mais on peut profondément aussi décourager. Tel qui parle légèrement blesse comme un glaive. Okay, donc la langue peut être, les mots qu'on utilise, les phrases que l'on dit, peut être aussi tranchant qu'une épée ou qu'un glaive. Et donc on peut utiliser les paroles pour blesser directement quelqu'un, en s'adressant à cette personne, en lui disant des choses qui sont désagréables. Mais on peut aussi utiliser les paroles pour faire du mal à quelqu'un sans même adresser la parole à cette personne. Et c'est ce que, je crois, Jacques traite ici. C'est ce qu'on appelle la médisance et la calomnie. Il dit ici, ne parlez point mal aux autres, mais il dit ne parlez point mal les uns des autres. Donc je peux faire du mal à quelqu'un sans adresser la parole à cette personne, simplement en parlant d'elle à une autre personne. Et c'est une utilisation que l'on connaît beaucoup, je crois. Il suffit de prendre le métro ou le train, de s'asseoir à côté d'un groupe de personnes, des fois. Et franchement, je crois que la plupart du temps, bon, il y a des gens qui discutent du soleil, de la pluie, du beau temps, des vacances, des enfants, ils montrent des photos du chien, etc. Ça arrive, mais souvent, j'ai entendu des personnes qui faisaient partie peut-être d'un même groupe et qui, on dit, cassaient du sucre, on dit ça comme ça, je crois, en français, hein, qui cassaient du sucre sur le dos de quelqu'un d'autre, soit d'un chef ou soit d'un collègue. Et cette personne n'était même pas là, mais il était évident qu'elle lui faisait du tort, du mal, parce que forcément, ces gens-là, après, ont une certaine idée de cette personne. Il arrive aussi que dans l'Église, on agisse pareil. Parfois, on peut avoir des petits clans, même entre jeunes, un petit groupe de jeunes ici qui se parlent, notre petit groupe de jeunes là qui ne se parlent pas, et puis après, on se dit des choses les uns sur les autres. C'est ce que Jacques traite ici. Donc, on parle mal et on fait du mal en parlant mal aux uns, les uns des autres. Alors, quelle est la nature de ce mal? Il est nécessaire de voir que Jacques ne dit pas qu'il ne faut jamais parler de quelqu'un. Il dit pas « ne parlez pas les uns des autres ». Il dit « ne parlez pas mal les uns des autres ». Donc, on ne peut pas ne jamais parler des gens. D'accord? Il ne dit pas qu'il ne faut jamais évaluer les agissements de quelqu'un, ni même discriminer entre les personnes. Parfois, c'est nécessaire de le faire. Il parle un peu plus tard de juger quelqu'un. Bien sûr, il ne dit pas qu'on ne doit jamais juger quelqu'un. Et en lisant l'Écriture, il est clair que nous sommes même enseignés, exhortés à porter parfois des jugements sur les choses, et parfois même sur les personnes. Mais ce ne sont pas des jugements de critique ou des jugements qui ont vocation à détruire les gens. Jésus disait dans Jean chapitre 7, 24, il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Alors, un jugement qui consiste à regarder l'habit de celui-ci, comment il est fait, ou sa morphologie, puis à dire des choses, c'est des jugements selon l'apparence. Mais un jugement qui consiste à, qui se base sur la justice de Dieu, qui peut évaluer quelque chose de spirituel, ben, ça n'est pas une chose qui est mauvaise en soi. Même la Bible enseigne à juger, s'assurer qu'on le fait selon la justice qui vient de Dieu. La discipline dans l'Église ne peut pas être exercée sans parler des personnes et sans juger. L'apôtre Paul, rappelez-vous, quand il parlait aux Corinthiens, il réprimande les Corinthiens pour leur absence de discipline dans un cas d'inceste. Et qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. Il dit bien qu'il a jugé la personne qui a commis. Il a discriminé, il a analysé les choses. Il dit, j'ai déjà jugé celui qui a commis un tel acte. Il dit, qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Donc, dans 1 Corinthiens chapitre 5. Et donc, ce que Jacques met en évidence ici, c'est vraiment cette attitude destructive qui consiste à parler de quelqu'un avec l'intention de lui nuire, de la diffamer cette personne, de la rabaisser et de rabaisser son estime aussi aux yeux des autres. La plupart du temps, c'est ce qu'on cherche. On cherche à faire que cette personne perde de l'estime aux yeux des autres. Et donc, on va mal parler de cette personne. Et nous pouvons vraiment mesurer, on l'a dit tout à l'heure, combien c'est présent dans le monde qui nous entoure et parfois même dans notre proche, très proche environnement, parfois dans le foyer. On peut parler mal des autres en inventant des mensonges à leur égard. Mais aussi, on peut parler mal en disant la vérité à leur égard. Oui. Donc, ce n'est pas ici ce que Jacques souligne, ce n'est pas le fait de parler de quelqu'un. Parce qu'on peut parler et dire un mensonge, ça c'est mauvais, mais on peut parler et dire la vérité, et ça c'est aussi mauvais. D'accord ? Et ce qu'il y a derrière, c'est ce que l'on vise, la motivation qu'il y a quand on parle de quelqu'un. Parler en inventant des mensonges, ça c'est mauvais dans tous les cas. Mais parler en disant la vérité, ça peut être une bonne chose, mais ça peut être aussi une mauvaise chose. Et Jacques souligne ici le côté négatif et mauvais du fait de parler, même en disant la vérité, sur quelqu'un. On peut utiliser la vérité pour quelqu'un comme une faute, par exemple, c'est une vérité, c'est un fait véridique, et on peut utiliser cela pour rabaisser cette personne aux yeux de quelqu'un d'autre, ici. Et donc, on parle mal des autres quand on attribue, si vous voulez, injustement leurs actes, par exemple, à de fausses motivations. Aussi. C'est une manière de dire des choses vraies sur quelqu'un, mais de dire qu'il le fait de la mauvaise manière. Pardon, on a un exemple en 1 Samuel chapitre, on va pas prendre le temps de le lire, mais 1 Samuel chapitre 10, où David a l'intention de faire du bien à quelqu'un, à un roi, le roi des Ammonites, je crois, et des conseillers de ce roi lui disent non, il ne faut pas croire ce que David dit, hein. En fait, il va venir pour espionner, etc. Il n'a pas du tout de bonnes intentions à ton égard. Et donc, il utilise ce que David veut faire comme bien, ce que David a déclaré faire comme bien, en disant que les motivations qui sont derrière ne sont pas de bonnes motivations. Et nous pouvons agir comme ça. Il y a des gens qui agissent comme cela parfois, peut-être ça nous est arrivé aussi, hein, de dire, tu vois, cette personne, oui, bien sûr, ce frère, il agit de telle ou telle manière, mais en réalité, voilà ce qu'il y a dans son cœur. Hein, il sourit, derrière son sourire, hein, c'est pas un vrai sourire. J'ai entendu quelqu'un qui m'a déjà même dit une fois, les chrétiens te font des sourires le dimanche matin, mais dans le fond, ils ne t'aiment pas. C'est de l'hypocrisie. Et ça, c'est pas de l'hypocrisie, ça c'est de la calomnie de la part de celui qui le dit. Parce que vous ne pouvez pas savoir ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et c'est pour vous dire que nous sommes capables d'agir de la sorte, de dire oui, de dire de quelqu'un, derrière cette facette, il y a des choses fausses, et je veux que tu le saches. Et on fait ça dans le but de salir et de diminuer cette personne aux yeux des autres. Il paraît spirituel, mais on va voir un peu ce qui se passe chez lui. Oui, peut-être qu'il y a... Mais disons, ça s'appelle parler mal, calomnier ou médire. Même s'il y a des difficultés chez lui. Ça s'appelle, ce que Jacques dit ici, parler mal. Et c'est ce que le diable fait hein, dans le jardin d'Éden. Et je crois que dans toutes les calomnies médisantes, ça se passe pareil. Il prend, d'accord, ce que Dieu a dit, et puis... Il va agir de manière à faire croire à Ève et Adam que Dieu n'avait pas de bonnes intentions à leur égard. Il n'avait pas de bonnes motivations. En fait, il a essayé de vous cacher des choses. Il dit, non, il dit, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Autrement dit, Dieu a essayé de vous cacher quelque chose. Il n'a pas été honnête avec vous. Il n'est pas si bon qu'il veut bien vous le faire croire. Et c'est ça, vous voyez là ici, on pourrait dire hein, que Satan, il a parlé mal de Dieu dans le sens où il a tenté de donner une mauvaise image, il a tenté de prêter en tout cas de mauvaises motivation à Dieu. La calomnie conduit malheureusement souvent à la division. Et on peut le voir en Éden, hein, c'est pas la communion avec Dieu qui a été le résultat de ce qui s'est passé dans la chute, c'est vraiment la séparation et la division. Et Proverbe 16, 28 dit « L'homme pervers excite les querelles et le rapporteur, celui qui va parler, dire des choses à propos des autres ici, le rapporteur divise les amis. » Il en est de même aujourd'hui, je crois, et partout où on parle des autres, même dans l'Église. Il faut être conscient de cela, le fait de dire du mal en catimini des uns ou des autres, on est sur une voie qui va vers la division, qui peut aller sur la division. Parce que la Bible dit que le rapporteur divise les amis. C'est un effet qu'on ne peut pas contrôler. Hein. On ne peut pas dire oui, non, on ne peut pas contrôler. C'est un effet boule de neige, quand ça commence, ça continue, et puis le résultat arrive qu'on le veuille ou non. Et puis, je dirais que la calomnie, pour parler un petit peu ici de la nature de la calomnie ou la médisance, c'est une marque d'impiété, vraiment. L'apôtre Paul dit à Timothée, dans 2 Timothée chapitre 3, verset 1 à 5, il dit « Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, voilà notre parler mal ici, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien et traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. » Comme on dit, ils sont des impies, hein, c'est de l'impiété. Si on a l'apparence de la piété, mais on renie ce qui en fait la force, qu'on est impie. Il n'y a pas de zone intermédiaire. Il ajoute « Éloigne-toi de ces hommes-là ». Et puis, on pourrait remarquer aussi que l'Écriture entière condamne la calomnie. Déjà dans Lévitique, chapitre 19, verset 16, il est dit « Tu ne répandras point de calomnie parmi ton peuple ». Déjà, Dieu avait donné ses commandements. Et puis, en Éphésiens 4, 31, que vous avez lu tout à l'heure, hein, il est dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Ça, c'est que pour ne prendre que deux passages, mais il y en a beaucoup d'autres. Hein, dans les psaumes, dans les proverbes, il y en a beaucoup d'autres qui parlent du fait de parler mal des autres. Donc, ça, on pourrait dire, voilà, c'est un petit peu la nature de la calomnie. Mais Jacques va plus loin que ça. Il va plus loin qu'un commandement simplement qu'il donne où il dit, voilà, ne parlez pas mal les uns des autres en laissant un peu les croyants se débrouiller avec ça. Il va donner, si vous voulez, la portée profonde de ce mal-là. Regardez ce qu'il dit au verset 11, deuxième partie du verset 11. Il dit, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Ah, si on nous avait demandé de donner, mais pour quelle raison ne doit-on pas parler mal des autres? On pourrait dire parce que ça fait mal aux autres. Oui. Ou on pourrait dire parce que l'Écriture, nous exhorte à ne pas parler mal, il faut obéir, il ne faut pas parler mal des autres. Mais Jacques va donner une raison un peu à laquelle on n'aurait pas pensé. Il établit un rapport ici entre cette attitude qui consiste à critiquer, juger, parler mal des autres, et la loi. Donc il va montrer la portée profonde de ce péché, si vous voulez, dans son rapport avec la loi de Dieu. Il dit, parler mal d'un frère ou juger un frère, c'est parler mal de la loi ou juger la loi. C'est équivalent, il dit. C'est équivalent, hein, on n'aurait pas penser cela. Il dit, au fait, parler mal, il ajoute même, il dit ici, même juger son frère aussi. Hein. Et donc, il s'agit bien sûr ici de critique, hein, pas de juger au sens où l'apôtre Paul le demandait tout à l'heure. Hein. Donc, il parle ici de critique. Il dit que tout cela, eh bien, revient à parler mal de la loi et à juger aussi la loi. Et certainement, il pense à cette loi qu'il avait déjà donnée en chapitre 2, verset 10. Regardez, chapitre 2, verset 10, où Jacques dit ici, car quiconque observe, non, c'est pas ce que je voulais, C'était où il dit, voilà, verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Peut-être qu'il pense à, peut penser qu'il pense à cette loi royale, celle que Jésus avait décrite aussi dans les mêmes termes lorsqu'il y avait cet homme qui était venu le voir et puis qui lui avait dit quel est le plus grand commandement. Puis Jésus avait dit, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Voici le premier commandement. Et puis il lui a dit, voici le second qui est son semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et puis il ajoute, de ces deux commandements dépendent quoi? La loi et les prophètes. Et l'apôtre Paul aussi résume, il dit que toute la loi est résumée dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et probablement, bon, on pourrait dire ici que c'est cette loi d'amour que nous sommes appelés à avoir les uns à l'égard des autres, en tout cas les croyants, qui est mise en évidence ici. Donc celui qui calomnie son frère, il ne l'aime pas, quoi qu'il dise. Il pêche donc contre la loi, parce que la loi lui commande d'aimer son frère. La loi dit même d'aimer son ennemi. D'accord. Donc il viole la loi lorsqu'il parle mal de son frère. Et ainsi, le message qu'il renvoie, on pourrait dire, dans son entourage, eh bien, concernant la loi, est un mauvais message. Le témoignage qu'il donne est un mauvais témoignage. Le croyant qui dit du mal de son frère renvoie autour de lui un mauvais témoignage. Et dans ce sens, on pourrait dire, il parle donc mal de la loi. Il est un mauvais porte-parole de la loi. Le porte-parole représente, amène la parole d'un gouvernement. Eh bien, le chrétien, il est quelque part le porte-parole de la loi aussi. Donc, cette loi de Dieu doit être vécue et accomplie en lui, et il doit en donner un bon témoignage. Donc, il ne rend pas cette loi, si vous voulez, visible aux yeux du monde. Jésus, vous rappelez ce que Jésus avait dit à ses disciples, on verra que vous êtes mes disciples, si vous avez quoi, de l'amour les uns pour les autres. Donc, le fait d'aimer... D'accord, traduit l'appartenance et l'obéissance, on pourrait dire aussi, à la loi de Dieu. Donc, et Jacques dit même que celui qui agit ainsi, il juge la loi. Celui qui juge se place d'office, d'emblée, on pourrait dire, au-dessus des autres. Il estime qu'il fait mieux, qu'il est meilleur que les autres. Quand on parle mal de quelqu'un, dans le fond, on est en train de dire qu'on est meilleur. Et si vous écoutez bien les gens, quand ils critiquent quelqu'un, ils disent souvent, moi, je n'aurais pas fait comme ça. J'aurais jamais fait comme ça. On n'aurait pas idée de faire ça. C'est une manière de dire, j'aurais mieux fait, je suis donc meilleur que cette personne. On se place quelque part orgueilleusement au-dessus de cette personne. Ainsi, celui qui juge son frère, c'est un signe évident de manque d'amour, il s'estime au-dessus de la loi et il la méprise et il la condamne. Il estime qu'il n'a pas besoin, qu'il peut se permettre de passer outre cette loi. Quand un homme politique, par exemple, homme de loi, brûle un feu... ou bien est pris sur l'autoroute à 250 km/h, là où c'est limité, je ne sais plus à combien, et on dit, qu'est-ce qu'on dit souvent de cette personne? On dit qu'il méprise la loi, on dit, et il n'est pas, toi là, tu n'es pas au-dessus de la loi. Autrement dit, tu dois te soumettre aussi à la loi. Donc celui qui ne respecte pas la loi, on considère qu'il se place au-dessus de la loi. Et c'est souvent ce qu'on dit. Ces hommes-là, ils font des lois, mais ils sont au-dessus des lois. D'accord. Pourquoi? Parce qu'ils enfreignent les lois. Et le croyant, quand il enfreint la loi de Dieu, il s'estime au-dessus aussi de la loi. Et qu'il a... Enfin, on ne pense pas comme ça dans notre tête, de manière cartésienne. Mais c'est ça qui se passe en réalité. C'est ce que Jacques dit ici. Il dit, on se place au-dessus de la loi. Et on estime qu'on n'a pas forcément besoin de l'observer. Après tout, je ne faisais que dire la vérité. Et donc, et c'est comme ça qu'on en agit parfois. Mais Jacques dit ici, plus que cela, Il montre d'abord donc la portée de cette loi, de ce péché dans son rapport avec la loi de Dieu, mais il montre aussi la portée de ce péché dans son rapport avec Dieu lui-même. Regardez ce qu'il dit. Il dit, or, verset 11, toujours, il dit, or, non, je ne suis pas au bon chapitre là, chapitre 4, au verset 11, il dit, or, si tu juges la loi, tu n'en es pas observateur, mais tu en es juge. L'homme ne peut pas être ici en même temps observateur de la loi et juge de la loi. Il dit, si tu juges la loi, tu n'en es pas observateur. C'est pas possible. Il faut que tu l'observes. D'accord? Sinon, tu la juges à ce moment-là, on ne peut pas considérer que tu es un observateur de la loi. Alors, observateur, c'est pas celui qui est en train de regarder la loi. Hein, il y a des gens, des fois, il y a des élections politiques, alors il y a des observateurs qui sont placés pour regarder comment ça se passe. Ici, il n'est pas question de ça. Ici, le mot qui est traduit par observateur, c'est même qu'on trouve en chapitre 1, verset 22. Vous allez voir tout de suite. Chapitre 1, verset 22. Regardez ici, chapitre 1, verset 22. Mettez en pratique la parole. Quand il parle d'observateur, il parle de metteur en pratique, on pourrait dire, de personne qui pratique la loi. Donc on trouve le même mot en 1.22, on trouve le même mot en 1.23 et puis aussi en 1.25. D'accord. Donc il n'y a pas d'obéissance, on pourrait dire, possible à la loi quand je calomnie ou que je juge mon frère, même si je fais d'autres choses qui sont bonnes par ailleurs. Si je calomnie, je parle mal, je n'observe pas. Je n'obéis pas, je ne pratique pas la loi. Parce que, au chapitre 2, verset 10, Jacques disait déjà, quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, il devient coupable de tous. Okay. Mais Jacques va encore plus loin que ça. Regardez ici, il montre que le problème que cela implique, il montre plutôt le problème que ça implique vis-à-vis de la loi de Dieu, mais aussi vis-à-vis de Dieu lui-même, hein, il montre, il ne le nomme pas vraiment ici, hein, il dit un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Alors le législateur ici, c'est celui qui met en place la loi. Et le juge, c'est celui qui applique la loi. Et Jacques dit qu'il n'y a qu'une seule personne qui a à la fois ces deux titres. Un seul est législateur, un seul fait la loi. Et un seul applique la loi. Et l'homme doit mettre en pratique, hein, le croyant doit mettre en pratique la loi de Dieu. Ésaïe 33, verset 22 dit, « Car l'Éternel est notre juge, l'Éternel est notre législateur, l'Éternel est notre roi. Et c'est lui qui nous sauve. » Donc, quand on parle mal d'un frère, on se fait juge car on prononce notre jugement sur ses motivations. Quand on dit, tu sais, il a fait ça, mais en fait, derrière, on est en train de prononcer notre propre jugement sur ses motivations. Parfois sur ses motivations spirituelles, parfois même sur sa spiritualité. Et de ce fait, donc, on tente de faire quoi? De se hisser, dit Jacques ici, à la place de qui? De Dieu, parce qu'il dit que il est le seul législateur et le seul juge véritable. Donc, on est comme des usurpateurs qui tentent de prendre la place de Dieu et d'émettre des jugements sur les autres, sur des choses que nous ne voyons absolument pas, parce que ce sont des choses qui sont dans le cœur, et nous ne pouvons pas agir ainsi, dit Jacques. Donc, il souligne donc que parler mal d'un frère, c'est une tentative d'usurpation de prérogatives qui reviennent seulement à Dieu. Et il souligne en même temps, si vous regardez bien, si l'étendue de la puissance, on pourrait dire, de ce juge-là. Il dit, lui seul est législateur et juge, et c'est celui qui peut sauver et perdre. Et puis il dit, mais toi, qui es-tu? Et tu n'as pas cette puissance, ni de perdre, ni de sauver, et tu tentes d'usurper la place qui revient à Dieu seul. Donc, ici, hein, il montre donc que le fait de calomnier n'est dans son rapport avec la loi de Dieu, c'est-à-dire que celui qui calomnie, qui médit, qui parle mal de son frère, il il parle mal de la loi, il juge la loi parce qu'il se place au-dessus d'elle, mais il tente même de prendre la place de Dieu. Et qu'est-ce que le péché ? Sinon que de prendre véritablement, de tenter de prendre la place de Dieu, n'est-ce pas ? Comme cela qu'est décrit Satan dans Ésaïe chapitre 14, hein, lorsqu'il parle du roi de Tyr, mais on sait bien que cela se rapporte aussi à Satan, où il dit que, où on le fait parler, où il dit, voilà, je m'élèverai jusqu'au très haut, hein, et jusqu'à être assis, hein, pareil, comme au même niveau que le très haut. N'est-ce pas ce que le diable a promis à Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Vous serez quoi? Comme le Dieu, hein. Et le péché, c'est cela, hein, c'est cette tentation de renverser Dieu, on pourrait dire, et puis de prendre la place de Dieu. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait tirer comme conclusion de cela, chers frères et sœurs? C'est que la véracité d'un fait concernant une personne n'est pas une condition suffisante pour rapporter ce fait, déjà. Il y a des gens qui se cachent derrière la vérité de quelque chose. Mais ce que je dis, c'est la vérité. Ça n'est pas suffisant de savoir si quelque chose est vrai pour le rapporter ou le colporter ici. Et dans ce cas de péché que Jacques décrit ici, hein, le mal réside dans l'utilisation que l'on fait de la vérité. Et pas de la vérité elle-même, pas le fait qu'on ait dit une vérité ou un mensonge, mais dans l'utilisation qu'on a fait de la vérité à des fins mauvaises. Une telle attitude dénote véritablement une absence d'amour. Deuxièmement, le péché n'est pas qu'un acte, hein, mais toujours une tentative de coup d'état qui vise à se hisser au niveau de Dieu et à le renverser. Le péché, ce n'est pas que des actes. On pourrait dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste dit quelque chose, oui, d'accord, bon, c'est... Non, il nous faut apprendre à considérer le péché à sa vraie, si j'ose dire, quelque part, sa vraie valeur. Quand je pêche, ce n'est pas juste un acte que je commets. Ce que Jacques dit ici, hein, vous voyez, Jacques ne dit pas « ne parlez pas mal les uns des autres, point ». Il dit non, celui qui parle mal de l'autre, eh bien il parle mal contre la loi. Et il juge la loi. Et il tente même de prendre la place de Dieu, la place qui revient à Dieu même. Donc c'est une tentative de renversement, toujours, de Dieu, et de tentative de se mettre, n'est-ce pas, au centre, sur le trône, on dit souvent, hein, de détrôner Dieu et puis de nous placer sur le trône. C'est ça, le péché, fondamentalement, ici. Et il est important pour nous, donc, de ne pas minimiser le péché en faisant comme si c'était juste un petit travers ou, ouais, ma langue, elle a fourché, ou c'est un petit... parfois, on a tendance, hein, à minimiser les choses. C'est si grave que ça. Si, c'est très grave. C'est très grave, parce que c'est une offense contre Dieu. Lorsque David est mis face à son péché, péché qu'il a commis envers Bathsheba, eh bien vous vous rappelez, il a dit, j'ai péché contre trois, seul. Bien sûr, il avait commis des choses, péché contre Bathsheba, contre Uri. Mais il avait conscience qu'il a offensé, premièrement, Dieu, et qu'il ne s'est pas soumis à la loi de Dieu. Troisièmement, nous avons besoin de méditer, chers frères et sœurs, sur Dieu, sur qui est Dieu et sur qui nous sommes aussi. Jacques décrit Dieu dans ce qu'il est ici. J'aime bien comment il dit. Il dit pas ici Dieu, il dit un seul est législateur et juge et c'est celui qui peut sauver et perdre. Il ne donne pas de nom, mais il le décrit par ce qu'il est et puis il ajoute, mais toi, qui es-tu? Et je crois qu'il montre ici que nous avons besoin de méditer sur qui est Dieu véritablement et qui nous sommes véritablement. Ça, ce sont des choses qui sont importantes. Dans Romains chapitre 9, vous vous rappelez, quand l'apôtre Paul parle de la doctrine difficile de l'élection, parfois, bien, il anticipe une question qui pourrait être posée, que les hommes pourraient poser. Il dit, quand il dit, par exemple, ainsi il fait miséricorde à qui il veut, et puis il dit, mais tu me diras, pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté? Il dit, pourquoi? Il me dit, bah, il choisit qui il veut, il fait miséricorde à qui il veut, et puis en même temps, il condamne, c'est pas possible. On peut pas avoir. Il dit, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Il t'a dit qu'il y a des questions, il y a des moments où ce qui est important, ça n'est pas pourquoi Dieu, etc., etc., mais c'est plutôt qui est Dieu et qui je suis. Dieu est le Dieu souverain. Moi, je suis un homme, un pécheur. Dieu est le seul juge, le seul législateur. Moi, je suis un homme pécheur. Et je dois me soumettre à la loi de Dieu, aimer mon frère et ma sœur comme le Seigneur me le demande. Et je dois apprendre à méditer sur moi-même. Ce que Jacques dit aussi ici, c'est que, voilà, on n'est pas aussi bon qu'on le croit. Hein? On peut penser que, voilà, et on a tendance à se surestimer, n'est-ce pas? L'apôtre Paul disait, je pense que c'est dans l'Épître aux Romains, que de ne pas avoir une trop haute estime de soi-même, je sais pas, hein. Et on a souvent tendance à avoir une estime élevée de nous-mêmes, ici. Mais en posant la question, mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain? C'est une question, je pense, qui est faite pour nous faire prendre conscience que nous ne sommes rien et que Dieu est tout. Considérer qui est Dieu, considérer qui nous sommes et avoir une vision juste de cela. Et puis je termine en disant que nous devons reconnaître ce péché en nous, si c'est le cas, chers frères et sœurs, et nous repentir et nous en détourner. Parce qu'après tout, c'est ce qui est l'objectif ici. Quand Jacques dit aux frères, ne parlez pas mal les uns des autres, c'est parce qu'il veut qu'ils se repentent, si tel est le cas ici. Et nous avons besoin de reconnaître toutes ces choses et de demander pardon à Dieu si nous avons agi comme cela, ou si nous agissons comme cela, et nous détourner de ce péché, et vraiment demander au Seigneur de nous donner la grâce de nous aimer véritablement les uns les autres. Je lis encore ce verset pour terminer. « Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'en es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge ton prochain ? » Prions. Merci.